cours de philosophie éthique de Père Marie Dominique Philippe, le 15 décembre 1999 à Saint-Gédard.
Plusieurs petites questions. Mon père, pour aimer, il faut connaître. Mais est-ce qu'il faut d'abord se connaître et s'accepter et s'aimer soi-même pour aimer? Alors, ça met longtemps avant d'aimer les autres, hein, toute notre vie. Ou bien est-ce que par l'amour que l'autre nous donne, l'on apprend à aimer? Bon, distinguons bien deux choses. L'analyse de l'amour au plan philosophique et la pédagogie ou l'éducation pour l'éveil de l'amour. Et les deux choses sont mêlées. C'est pour ça que ça vous fait une mélasse. Vous comprenez, au point de vue philosophique, c'est pas l'origine qui nous fait comprendre. C'est regarder qu'est-ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour spirituel? Parce que je présume que c'est l'amour spirituel. Qu'est-ce que c'est que cet amour spirituel? Cet amour spirituel présuppose et implique une connaissance d'une bonté spirituelle, c'est-à-dire de la personne. Puisque c'est la personne qu'on peut aimer d'un amour spirituel. Il faut un bien spirituel. Quel bien spirituel que vous pouvez avoir en premier lieu? C'est Dieu, mais ce n'est pas en premier lieu. C'est l'autre, l'ami. C'est sûr. Donc, c'est pour ça que l'amour d'amitié qui révèle et qui me révèle l'amour de l'autre et la personne de l'autre en tant qu'aimable, capable de susciter en moi un amour, est quelque chose de si important. Alors à ce moment-là, vous voyez que l'amour spirituel implique une connaissance, mais ce n'est pas la connaissance de l'autre, de sa bonté, qui spécifie mon amour. L'amour est spécifié par le bien. Mais pour que le bien puisse spécifier mon amour, il faut que je le connaisse. Et c'est toujours ça qu'il faut ne jamais oublier. La connaissance n'est pas ce qui spécifie l'amour. Je peux très bien connaître quelqu'un et ne pas l'aimer. Et puis je peux connaître très peu quelqu'un et l'aimer. Vous voyez, ce qui est sûr, c'est qu'il faut la connaissance pour l'amour, condition sine qua non, non pas la spécification. C'est important de préciser ça. L'amour que j'ai pour moi, c'est un amour naturel que j'ai pour moi. Naturellement, je m'aime. C'est plus facile de s'aimer que d'aimer l'autre. Ça dépend pour qui. Alors vous voyez, ça dépend pour qui. Parce qu'il y a des cas où des personnes ne s'aiment pas du tout. Mais ça, c'est des difficultés spéciales qui impliquent qu'on est assez particulier. Alors on peut avoir une espèce de nostalgie de soi, du moins on peut avoir une espèce d'horreur de soi, on le rejette, on ne veut pas se regarder. Mais si je veux éduquer quelqu'un à l'amour, l'éveiller, je sais que les passions sont premières pour moi. J'ai aimé le sucre, le chocolat, avant d'aimer spirituellement quelqu'un. L'instinct s'éveille chez l'enfant. Et il aime sa mère. Elle est pour lui un soutien, une garantie une défense. Puis progressivement, il aime spirituellement sa mère, mais il faut du temps. Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'amour passionnel. Ce que fait saint Thomas, du reste, il regarde l'amour passionnel d'abord. Et on étudie l'amour passionnel, on éduque l'amour passionnel, et on l'éduque par la vertu de tempérance, la vertu de force. On éduque son amour pour que puisse naître l'amour spirituel. Et l'amour spirituel naît progressivement, lentement. Alors, on dira qu'il faut s'aimer pour aimer l'autre, c'est très vrai. Mais ce n'est pas s'aimer qui spécifie l'amour de l'autre. Non. Ça fait partie des conditions dans lesquelles notre amour puisse s'éveiller. Donc, quand on verra quelqu'un qui ne s'aime pas et qui a de la haine pour lui, on essaiera de supprimer ça en voyant d'où ça vient. Là, c'est tout le point de vue psychologique d'essayer de découvrir ça et surtout plus profondément de comprendre comment on peut éveiller un autre amour. Et ça, je crois que très important. Vous voyez, c'est pour ça que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est tellement important, dans l'éducation des jeunes, de pouvoir éveiller assez vite leur amour d'amitié. Je crois que c'est très important. Parce que quand l'enfant est encore jeune, on peut lui faire connaître des amis, d'autres amis possibles, qui sont bien. Quand l'enfant grandit, plus une possibilité de faire naître un amour d'amitié avec tel ou tel. C'est lui qui choisira. Et c'est pour ça qu'il me semble que dans l'éducation actuelle des jeunes, c'est capital ça, beaucoup plus qu'avant. Et l'amour d'amitié implique un amour de soi et un amour de l'autre. Alors qu'est-ce qui est premier? C'est l'amour de soi, génétiquement. C'est l'amour de nous, normalement. Puis on aime l'autre. Mais on l'aime pour lui-même. On ne l'aime pas contre nous. On l'aime pour lui-même. Donc c'est vraiment la bonté de l'autre qui éveille en nous cet amour d'amitié. Qui est très important. Donc vous voyez, alors, pour répondre nettement. Pour aimer, il faut connaître, oui, condition sine qua non. Mais est-ce qu'il faut d'abord se connaître? Non, pas nécessairement. On se connaît, oui, connaissance de nous. Alors, si je prends ça, très, très, mais pas une connaissance profonde. C'est pas nous que nous connaissons en premier lieu. Nous connaissons si mal. Et souvent, c'est l'ami qui nous fait connaître nous-mêmes. Se connaître, oui, se connaître d'une certaine manière, s'accepter, s'aimer soi-même pour aimer, c'est pas ça, c'est l'autre qui éveille en nous l'amour. Tout ça, c'est des conditions, c'est, on laboure le terrain, mais c'est la bonté de l'autre qui éveille en moi l'amour. Alors, s'aimer soi-même, se connaître soi-même, c'est très bien, mais c'est pas ça qui spécifie. Il y a un nouvel amour, c'est la bonté de l'autre. Ou bien, est-ce que par l'amour que l'autre nous donne, qu'on apprend à aimer aussi? J'apprends à aimer de plusieurs façons. Et comme l'amour, c'est quelque chose de tellement fondamental en nous, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule manière. Alors, on pourrait voir les différents caractères, là, les différences. Certains ne pourront apprendre à aimer que si on les aime. D'autres pourront très bien aimer sans avoir cette connaissance de l'amour de l'autre. Vous voyez ? Quand vous cherchez ce qu'est l'amour, cherchez l'analyse philosophique de l'amour, l'expérience que vous en avez. Puis après, pour l'aspect génétique, c'est l'éducation. Et là, vous verrez très vite que c'est chaque fois des cas différents. Mon père, Au cours précédent, vous aviez dit que le fondement n'est pas principe. Pourtant, dans le livre Delta 1 de la métaphysique, Aristote dit que le fondement est aussi principe. Comment comprendre ça? Vous auriez pu mettre le texte. C'est difficile de répondre. Voir le mot grec exact de fondement. Je vois. Voyez. Et puis il faut voir les différents sens de principe. Aristote a différents sens de principe. Il met le principe, c'est quelquefois ce qui est premier, tout simplement. Donc, au point de départ, et dans une course, quand il y en a un qui part le premier, puis 5 minutes après, un autre. Bon, alors, celui qui part le premier, principe, un principe dans le temps. Alors que le fondement soit un principe dans le temps. Quand vous réalisez une œuvre artistique, une œuvre architecturale, il faut d'abord monter le principe. C'est ce que vous faites. Vous faites d'abord monter les fondements. Donc le fondement est principe. Tout à fait d'accord. Quand vous regardez, comme je le disais tout à l'heure, en disant que le sujet, au point de vue dans la philosophie, de Husserl ou de Heidegger, le principe et le fondement, le sujet, la substance, sujet et fondement, est-elle principe? Elle est principe dans ce sens particulier qu'elle doit être d'abord. Elle existe d'abord, mais ce n'est pas le vrai principe. Je prenais le principe substance pour montrer que ce n'était pas ce principe-là. Vous voyez, donc le principe au sens fort. Ce qui est premier et qui est cause, qui peut être cause. Le fondement est toujours quelque chose de premier dans le temps. C'est quelque chose qui est présupposé. Alors ça, c'est le principe, c'est le fondement. Mais ce n'est pas principe au sens absolu, puisque le principe n'existe comme principe que grâce à l'intelligence qu'il découvre, tandis que le fondement est une réalité. C'est ça la grosse différence. Jésus dit, si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le paraclet. Donc il met un lien entre les deux, selon la logique stoïcienne. Il y a un lien. Est-ce que le premier, si je ne pars pas, est-ce qu'il est premier, est-ce qu'il est principe? Au sens fort. Est-ce qu'il est cause? Non. Il est principe dans le sens qu'il est antérieur. La mort du Christ est antérieure avant qu'il puisse envoyer le paraclet. Alors on dira, c'est comme un fondement. Le fondement est premier dans le temps. Et le premier, le fondement, est en même temps une réalité tangible. Tandis que le principe n'est pas une réalité tangible, le principe au sens fort. Je regarderai métaphysique pour vous dire exactement, parce que je n'ai pas en tête. Je sais simplement qu'Aristote dit que principe, il y a différents sens. Donc ça dépend du sens qu'il prend. Du fait qu'on peut avoir plusieurs amis dans l'exercice ou choix, chaque ami comme étant quelqu'un d'unique, il me semble que je peux dire que j'ai un amour de prédilection à l'égard de chacun des amis que j'ai choisi. Sinon, je ne pourrais pas faire un choix, et que ce n'est qu'au niveau de l'analyse de cette expérience que je vois que parmi ses amis choisis d'un amour de prédilection, il y en a un qui est premier, qui est le bien fin, par excellence. Mais chacun d'eux sont un certain bien fin. C'est aussi en analysant cette expérience que je comprends qu'il y a des amis qui sont des moyens, mais pas autrement. C'est-à-dire, quand je fais un choix sur un ami, il est pour moi un certain bien fin. Je le choisis pas comme un moyen. Je vous prie de nous éclairer sur ce point, puisqu'il semble que vous disiez, en analysant cette expérience, qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut devenir bien fin. Non, pas qu'une seule personne, c'est sûr. Je peux avoir plusieurs amis. Allez. Dieu a beaucoup d'amis. Chacun son ami. Chacun son bien fin. Mais, d'une certaine manière, puisque cet amour d'amitié est limité. Et c'est vrai au niveau de l'analyse. Mais il me semble que cela n'empêche pas qu'on puisse choisir d'autres amis. Je vous dis cela parce que un de mes amis me demandait s'il était pour moi un ami moyen. Donc, un ami métaxu. Oui, je ne l'ai pas choisi comme ami moyen. C'est-à-dire moyen au point de vue de la taille. Même s'il pourrait l'être au niveau de l'analyse. Oui. Vous voyez, alors, quand on choisit un ami, il est un bien absolu. Je l'aime pour lui-même. Il n'y a que l'amour de Dieu qui ne fait pas nombre. Dans l'art de charité, j'aime un homme à cause du Christ, par amour pour le Christ. Et je l'aime pour lui. Et les deux peuvent s'entendre. Parce que l'amour de Dieu, il transcende. Tandis qu'au point de vue humain, quand je dis à quelqu'un « tu es mon ami », ça veut dire « je l'aime, je t'aime pour toi-même ». Donc tu es fin. Mais je peux très bien aimer aussi un autre ami. C'est pas parce que j'ai que nécessairement l'amour est unique. Non. Parce que j'aime l'ami comme fin. J'aime un autre comme fin. Je peux très bien aimer un ami en raison de son intelligence. Et je l'aime vraiment comme ami. Et il m'aide beaucoup, mais ce n'est pas à cause qu'il m'aide. C'est parce qu'ensemble, nous sommes unis dans notre contemplation, dans notre recherche de la vérité. Je peux très bien aimer un autre en raison de sa bonté extraordinaire. C'est pas lui qui m'aidera à découvrir la vérité, mais lui m'aidera à me détendre, à être vraiment plus détendu quand je suis fatigué. Il y a toujours dans le choix quelque chose de particulier. Alors, la préférence indique quelque chose de différent. C'est l'aimer au-dessus des autres. Je te préfère. On peut dire ça à ton ami, je te préfère, c'est toi que j'aime. Les autres, en relation avec ça. Oui, donc ne disons pas que tout amour d'amitié implique une préférence. Tout amour d'amitié implique qu'on aime l'ami pour lui-même. Et pour lui-même, putain, la personne humaine est complexe. La personne humaine n'est pas simple. Il n'y a que Dieu qui est simple. La personne humaine implique ses diverses dimensions. Et je peux aimer un ami pour une de ces dimensions qui me paraît tellement nette chez lui. Et c'est pour ça que c'est important de regarder les diverses dimensions de la personne humaine. Parce que chacune de ces parties de la personne humaine peut être aimée pour elle-même, dans la personne. Alors continuons. Cette question du choix. N'est-ce pas ? C'est complexe le choix, c'est pas du tout simple. C'est complexe. C'est toujours intelligence et amour. Et c'est un des rares actes humains où la complaisance, l'intelligence et l'amour se rejoignent. Mais dans certains choix, on peut dire que c'est l'amour qui domine. Dans d'autres, c'est l'intelligence. Ça me semble assez net. On a des amis du côté de notre recherche intellectuelle. Des amis avec qui vraiment on peut partager profondément toutes nos recherches. Et il y a des amis où c'est beaucoup plus l'aspect bonté. Je peux compter sur lui. Et quand on sera fatigué, quand on sera souffrant, c'est plus ses amis du côté de la bonté. Parce que de fait, le choix qui regarde la personne humaine, le choix a ses deux versants. Oui. Et vous avez encore d'autres manières de regarder les choix différents. Vous avez le choix d'un moyen plus proche de la fin. Et le choix d'un moyen plus proche de nous-mêmes. Je me souviens, c'était très sérieux. C'était quelqu'un, un jeune garçon, un jeune homme, très profondément chrétien, qui aimait deux jeunes filles. Et il m'en parlait d'une façon qui était très très jolie, en disant, passer ma vie avec l'une et l'autre, je dois regarder, il y en a une qui me maintiendra sûrement dans une voie de sainteté. L'autre, ah, elle me plaît beaucoup, mais je m'amuserai beaucoup plus avec elle. C'était très joli. Et je comprends très bien. Mais, vous voyez, il peut y avoir des choix analogues au point de vue des vocations. D'un côté, c'est plus rude. De l'autre côté, c'est moins rude. Si je cherche la sainteté, c'est moyen là. Si au contraire, je me dis, on a le temps, on entre dans le troisième millénaire, hein, alors quand même, on est au début, on a encore le temps. Tandis que si je dis, il reviendra comme un voleur, ah, on n'a plus le temps. Mais soyons un peu lucides dans nos choix et comprenons cette variété des choix. Et comprenons que dans le choix, il y a toujours un élément dominant. C'est relié à l'amour et à l'intention de vie plus profonde. Alors, à ce moment-là, le moyen qu'on choisit, on le choisit parce qu'il est plus en connaturalité avec ma finalité. Il y a, vis-à-vis de ce moyen, quelque chose qui va me permettre d'aller plus vite. Mais ce sera plus difficile. Donc, il est plus proche, c'est pour ça que je dis, il y a un moyen qui est plus proche de la fin, il y a un autre moyen qui est plus proche de mon conditionnement. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est pour ça que les choix de mes amis, quand je les apprends, sont très révélateurs. Très révélateurs. C'est parce que c'est là où les amis font moins d'attention. Ils ne déclareraient pas ça spontanément. Mais ils le déclarent indirectement par leur choix. Ça, c'est très très net. Pour des moyens multiples et divers, va, dans l'ordre de l'amitié. On demandera à tel ami telle chose, à tel autre chose, et de temps en temps, on fera comprendre que cet ami à qui on demande telle autre chose, c'est pas seulement parce que dans ce côté-là, il est plus habile, mais c'est parce qu'au fond, il y a une connaturalité plus profonde au point de vue des personnes. Donc, c'est très très significatif. D'autre part, le choix me fait comprendre un nouveau type de liberté. Donc si on fait une étude de la liberté, c'est très important de se rappeler ça. Le choix à l'égard de tel moyen plutôt que tel autre. Le choix de tel conférencier plutôt que tel autre. Le choix de tel cours plutôt que tel autre. Je suis libre, facultatif. Tu restes constamment, c'est comme ça. On laisse exprès dans les règlements de vie des choses facultatives. Et on en revoit tout de suite là le partage des eaux qui se fait. Quelquefois c'est très humiliant. Tous les autres passent devant. Puis alors, il y en a un qui, par charité, se dévoue à aller vers vous. On hésite. Faire un cours pour un seul. Alors, on dit non. Au fond, vous irez très bien de l'autre côté. Vous n'aurez jamais abdiqué au point de départ. Vous avez été humilié. Alors après, on est beaucoup plus souple. Et on renvoie le bonhomme. Le choix implique nécessairement une option pour tel bien. Donc là, il y a une option qui regarde la détermination. Et puis, il y a le choix qui regarde le fait de poser un acte ou de ne pas poser l'acte. C'est comme ça que dans la somme théologique de Thomas d'Aquin, nous voyons que Thomas d'Aquin distingue très nettement une liberté d'exercice et une liberté de choix. Et c'est important de voir ça. Pour certains choix, on est libre de choisir tel moyen et de le choisir à tel moment. Pour d'autres choses, on n'a que la liberté d'exercice. Poser l'acte ou ne pas le poser. Donc, voyez bien. Alors, la liberté d'exercice nous l'avions déjà vu. La liberté d'exercice va s'exercer surtout à l'égard de ce qu'on choisit comme fin pour notre vie. Quelque chose qui s'impose. Mais ça ne s'impose jamais de telle façon que je ne peux pas le retarder. Je ne peux pas le rejeter. Je suis obligé de le choisir. Ou au contraire, je peux très bien maintenir cette liberté où je pose l'acte ou je ne le pose pas. La liberté de choix, c'est justement de choisir tel. On vous offre une assiette de bonbons. Vous pouvez refuser. C'est le carême. Et vous pouvez accepter, et en acceptant, il y en a que vous aimez beaucoup, il y en a que vous aimez beaucoup moins. Vous pouvez très bien faire un choix de tel ou tel moyen. Au fond, c'est tout le temps ça. Notre vie est faite toujours du croisement de ces deux choix. Au point de vue de la liberté. Je peux très bien trouver une excellente excuse pour ne pas choisir. Et puis je peux très bien choisir en raison de telle ou telle chose. Mais, alors là, il faut bien préciser ces deux types de liberté. Alors ça repose tout simplement sur le jugement que vous portez sur ce bien. Il y a des biens qui s'imposent, des biens qui ne s'imposent pas.